Moteki et Yokoso.
Bienvenue à tous.
Bienvenue pour cette nouvelle émission de Moteki. C'est comme d'hab, tous les samedis matins 9-10 avec Damien et Romain. C'est une heure de son japonais pour vous. Et vous êtes bien au chaud dans votre lit. Et nous, on est là pour balancer du son. On a commencé avec...
Taulier du son japonais.
Bien sûr. On a commencé avec Ueto Aya. Donc Aya Ueto. Elle a fait partie d'un groupe avant, un groupe d'idoles à la fin des années 90, et comme Nami Amuro, elle s'est rapidement émancipée en solo, sauf qu'elle a pas eu la
même
carrière.
Ce que c'est vraiment qu'un talento, c'est même plus d'ailleurs un performeur à la télé plus qu'une chanteuse. On utilise ce mot là en fait, surtout pour la télé.
Voilà, c'est une sorte de bagage un petit peu multicarte qui fait que vous pouvez un petit peu prétendre à réussir dans le divertissement japonais en alliant à la fois la comédie, le chant, éventuellement les blagues ou les trucs, tu vois, ça peut être très très vague, le doublage.
Bon, oui, ce que j'allais dire justement, j'allais y venir au seiyuu.
Le côté seiyuu, donc.
Les doubleurs, les comédiens de doublage.
Donc, Aya Ueto, avec un single bien nommé, le single bien nommé Ambition, puisqu'elle n'en manquait pas d'ambition. La jeune demoiselle, elle a eu quand même une belle carrière. Hein. Elle a été quand même très présente au début des années 2000. C'était tiré de son premier album éponyme, Aya Ueto.
On va parler de quoi aujourd'hui? Alors du coup, on va parler de...
On aura pas mal de choses comme d'habitude.
De littérature aujourd'hui.
Toujours très éclectique, Moteki.
Donc de littérature avec notamment la sortie très prochainement le 15 avril. Donc oui, bah en fait c'est quasiment dans... Oui, c'est dans 10 jours pile poil.
C'est ça.
Dans 11 jours plus précisément, la sortie de Histoire du manga moderne. Ouvrage qui avait été financé participativement, je sais pas si on le dit comme ça d'ailleurs, via My Major Company, et dont on avait consacré une émission entière. On avait eu Mathieu Pinon, qui est l'un des deux co-auteurs de ce livre. On l'avait eu pendant une heure à l'antenne via Skype. Et on le rappelle, donc c'est une émission à retrouver évidemment dans nos archives. On va en parler un peu plus précisément au cours de cette émission.
On
va essayer de
aussi
l'appeler, là encore une fois, sur Skype. Voilà ce qu'on va essayer de faire
aujourd'hui. Histoire du manga moderne, un beau projet, hein, quelque chose d'assez ambitieux qui va couvrir donc les années... ça commence dans les années 50, puis c'est vraiment... au tout début de, effectivement, ce qu'on appelle le manga moderne. Et il me semble croire. Il me semble croire.
En gros, t'as vu la Dame Blanche, non? C'est pas ça.
Que c'est le tome 1.
On lui demandera, parce que là, c'est 1952-2012. Alors,
ah non, 2012.
Que le tome 2 soit le 2012-2014, je comprends.
Ah oui, non, d'accord. Non, c'était voilà, jusqu'à 2012. Non,
parce 204 que pages quand même.
J'aurai un bouquin dans plusieurs parties à vous parler tout à l'heure dans les news.
Mais alors, bon, ça, c'est encore autre chose. 204 pages pour une trentaine d'euros, 29,99. 30 euros moins un centime, vous l'aurez compris. On parlait donc d'idol et de talento au début de cette émission. Je te propose d'enchaîner sur une autre idol, mais des années 80. Celle-ci, elle est pour notre ami Laurent, là-bas, tout là-bas, dans le sud du Japon, le pays où on trouve des trucs improbables, notamment des gaufrettes croates à Kagoshima. Non, là, c'est à Oita qu'on va. Oui, c'est quand même complètement fou. Noriko Sakai. Oui, tu te rappelles de ça?
Oui, bah oui. Je me rappelle que t'étais comme un dingue, oui, ça c'est.
Mais j'étais comme un dingue en regardant le clip, en me disant, mais attendez, c'est la musique des Trois Mousquetaires.
Je te parlais des gaufrettes, moi. Ah oui, oui, non, bah.
J'étais aussi comme un dingue devant le clip. Parce que le clip, en fait, de Noriko Sakai, il faut quand même le dire.
Ça se passe dans un combini.
Rien à voir, voilà. Rien à voir avec les Trois Mousquetaires, ça se passe dans un combini. Elle trouve l'amour dans un combini, si c'est pas beau, ça.
Et ce qui est génial, c'est que justement, Laurent, d'ailleurs, m'avait renvoyé le clip, là, il y a quelques temps. Et ce qui est franchement très intéressant, c'est qu'on peut voir un combini dans les années 80.
Oui, c'est très intéressant.
C'est ça, en fait. C'est une sorte de voyage dans le temps, le clip.
Exactement, pour savoir ce à quoi ressemblait un combini. 0418 39 18 15 pour nous appeler.
www.facebook.com/moutikikanu, idem pour Twitter.
Et c'est parti, donc. Et Noriko Sakai, la chanson c'est
Yume Boken, ouais. Et alors, comme dirait Noriko Sakai, la drogue c'est mal voyé.
Oh, その旅夢だけを数え
génial premier générique de début.
Jusqu'à la dernière milliseconde.
De Gulen Lagan. Dernière grande réalisation, enfin qui remonte un petit peu, mais de Gainax, puisqu'après, bon, ça s'est un petit peu calmé quand même. Une série qui avait fait beaucoup. Beaucoup de bruit, notamment par son épisode 4 qui avait soulevé l'indignation des fans. Il y avait eu un... Allez regarder un petit peu sur internet, vous tapez Gurren Lagann épisode 4, vous allez voir un petit peu les polémiques qui en ont découlé. Et au niveau de la réalisation surtout, et notamment pour la fin aussi, dantesque. Excellente série de 27 épisodes suivie de deux films qui avaient été réédités il y a quelques temps, là, il y a quelques mois par Hot Anime, dans un coffret absolument splendide, un coffret Blu-ray pas donné, mais alors une sorte de décrin pour la série.
Mais ça vaut le coup de l'acheter, si je comprends bien.
Oui, bon voilà, en tout cas c'est une série qu'il faut voir. C'est pas pour pousser à la consommation, mais le coffret est vraiment très beau et la série vaut vraiment le coup. C'est une série de méca, mais qui mélange plein d'autres styles et avec des personnages assez forts. Très très bonne série.
Avant de passer,
très bon générique de début.
Avant de passer à Histoire du manga moderne, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'en parler maintenant justement de ce fameux bouquin en plusieurs tomes que tu nous gardes sous le coude en ce moment et que tu nous...
Alors étant donné que...
Tu veux nous dévoiler les détails en fait.
Étant donné que nous ne l'avons pas lu... Encore, on peut parler que de généralité, à savoir.
Non, je te parle de ton truc sur la PlayStation.
Ah, pardon, je croyais que tu me parlais du manga moderne. Rapidement, oui. Au niveau du, bon, on aime bien.
Vous êtes tourné autour du pot et puis en fait PlayStation. Ah oui, d'accord.
On aime bien les bouquins, effectivement, voilà. Et on aime bien aussi les bouquins qui parlent de nos passions. Hein. Il y a pas mal de gamers qui écoutent l'émission aussi. Geekline, qui est un éditeur, un tout petit éditeur qui s'est fait connaître par le biais de sorties liées aux jeux vidéo, ça rappelle un petit peu Pixel Love au tout début, sauf que attaque directement par des gros morceaux. Hein, ils ont déjà sorti la Bible Nintendo 64,
voilà,
qui est un ouvrage que je vous recommande grandement. C'est un petit peu la mal aimée des consoles finalement au niveau Nintendo, mais par contre,
c'est un peu paradoxal en même temps. C'est la mal aimée des consoles, mais en même temps l'épisode que tout le monde, en tout cas pas mal de monde, cite en exemple, notamment de Zelda, reste Ocarina of Time, qui est le jeu emblématique de la 64.
Tout à fait. Mais il n'y a pas que celui-là.
Donc mal aimé, mais en même temps.
Il y a James Bond, il y a Mario Kart, enfin, il y a des bons jeux évidemment. Après, voilà, c'est une console qui globalement, Mario 64 évidemment aussi, une console globalement qui a été un petit peu sous-estimée. En tout cas, voilà, dans cette lignée-là, vraiment des livres très très bien faits, assez épais, beaucoup d'iconographie. Bon, jusque-là, on est assez proche de Pixel Love. Néanmoins, il y a une attention toute particulière qui est portée aux chroniques de jeux, ce qui est fondamental hein, dans une Bible dédiée à une console. Et vraiment, là, vous avez un très très beau panel. Les jeux sont vraiment testés. On voit que le mec a vraiment joué à tous les jeux. Il y a des tests qui sont sur la plupart d'une page, ou alors au minimum, c'est une demi-page. Il y a beaucoup d'anecdotes. C'est bien écrit, c'est assez drôle. C'est un petit peu la ligne directrice de l'éditeur.
Alors, il y a moins de jeux sur la 64, ce qui permet aussi de développer plus d'espace pour chaque jeu.
C'est ça. Ce qui fera qu'il y aura plusieurs volumes sur la sortie dont je vais vous parler. Ils ont également sorti la Bible Mega Drive. Alors, un petit peu appelé pompeusement, puisque c'est pas vraiment une Bible dans le sens où c'est pas comme la Nintendo 64, il n'y a pas de test de jeu. Par contre, Sega a ouvert sa malle au trésor et il y a beaucoup d'archives. C'est un petit peu un livre d'archives. Et donc voilà, c'est pour apprendre un petit peu toute l'histoire de Sega, la genèse de la Mega Drive, beaucoup d'interviews, très très bon bouquin. Et Geekline, alors là, ça s'attaque à un monument, à savoir la PlayStation de Sony. Alors, ils ont un gros projet, donc qui est quand même déjà relativement bien avancé, puisqu'il y a des dates de sortie pour 3 volumes. Le volume 1 sortira le 27 mai, le volume 2 le 9 septembre et le volume 3 en novembre. Alors, PS Anthology, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être une histoire, en fait, déjà pour le volume 1 de Sony et de la PlayStation, du début de la PlayStation, puisque le premier volume couvre quand même 1945-1997.
1995, parce que
1997, à savoir le tout début de Sony.
Ah oui, le début de Sony.
Genre quand Sony, le mec avait Sony que dans sa tête et qu'il était dans sa cuisine.
En mode Florent Gorge.
En train de dire, voilà, tiens, si je montais une boîte. Et c'est absolument, enfin sur le papier, parce que pour l'instant, on l'a pas lu évidemment, mais sur le papier, c'est absolument génial. Parce
moi, je pensais que c'était 95 avec la sortie de la PS.
Ils font les choses en grand. En plus d'être une anthologie sur la PlayStation, ça va être finalement une anthologie sur le premier volume, sur toute l'histoire de Sony. Donc autant dire, même au Japon, ils n'ont jamais vu ça. Enfin, voilà. Ça va quand même faire 436 pages. pour le volume 1 uniquement. Alors, il y aura énormément d'interviews, des historiques, une ludothèque passée au crible de 94, début de la PlayStation, jusqu'à 97. Il y avait déjà quand même pas loin au total de 1000 titres, déjà à cette époque-là. Des publicités, etc. Enfin, voilà. Ça sort le 27 mai. Il y aura également une édition collector avec 24 pages en plus, un coffret numéroté, un tiré à part. Enfin, bon, voilà. Vous pouvez aller sur geekline.com. C'est le site, en fait, où vous pouvez déjà pré-réserver.
C'est officiel, déjà, pour commencer.
Voilà, déjà. Et vous pouvez pré-réserver votre exemplaire. Il y a aussi une offre spéciale pour pouvoir réserver directement les trois. Et avec, on vous file quand même des trucs de fou, un vinyle avec les musiques de AB, le jeu sur PlayStation. AB Sapiens, là. Enfin, le truc là avec l'espèce de bonhomme vert.
Abe. AB.
Ouais, non, mais parce que.
Oddworld, l'exode d'Abe, pas de AB.
Ouais, bah, excuse-moi, moi je pensais plus à Hellboy.
Je pense que les opposants politiques au Japon, au gouvernement en place, diraient l'exode d'AB, mais ça, c'est.
Non, mais ça, c'est mon côté japonais.
Mais
japonais.
C'est pas du tout. Oui, c'est pas du tout.
C'est mon côté japonais.
l'exode d'AB.
Ouais, bon, bah, c'est bon. Il y en
a qui seront heureux, tiens.
Fais gaffe quand même. Donc voilà, ça sort.
Tu auras des problèmes, toi.
Ça sort le 27 mai.
On revient pas au Japon, toi, t'auras des problèmes politiques.
On vous encourage évidemment à surveiller ça, la PlayStation Anthologie.
Allez, c'est bon, c'est sur geekline.com pour les références, pour en savoir plus.
Tout à fait.
Je voulais enchaîner donc sur une chanson qui nous a poursuivis au Japon. On pourrait la garder et on la gardera, je pense qu'on la ressortira des tiroirs pour un final, puisque c'est une chanson qui est bien prévue pour un final, mais je voulais surtout en parler et en faire un petit focus. C'est le groupe s'appelle Kumamushi, c'est un duo de comiques à la base, donc des talentos, tiens justement, parce qu'on en parlait, des gens qui font des performances et notamment à la télé. La chanson s'appelle Attakain Dakara. Et elle nous a poursuivis dans tous les Matsuya de l'archipel, en fait. Matsuya, c'est une chaîne de... pas de ramen, c'est une chaîne de fast-food japonais, c'est-à-dire des katsudon, des choses comme ça.
C'est pas cher.
Chaîne de restauration rapide, tout simplement, où on y mange très bien, d'ailleurs. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est recommandé par Tomo. C'est la chaîne de fast-food recommandée par Tomo. Et si Tomo recommande un truc,
Tomo,
au niveau bouffe...
Sealed of Quality.
Ah, Sealed of Quality, exactement. On a pu tester et il y a beaucoup de plats, notamment d'inspiration, d'origine coréenne au passage. Matsuya donc, qui passait en boucle cette chanson.
Il y a toujours une chanson qui s'échappe d'un voyage comme ça. Ouais.
Exactement. Et celle-ci, donc, c'est Kumamushi Attakain Dakara pour la référence si vous cherchez.
Grand tube. Hein.
Le clip est très marrant, justement, et c'est une sorte de triangle amoureux très amusant à regarder. Et je vous propose d'écouter cette chanson, d'aller découvrir ça.
Ah! の最初の一口。指先あったかいんだから、涙が溢れて手のひらに落ちたよ、あったかいんだから、いつまでも泣いて、
無敵ラジオ加入じゃないと悪魔があなたの枕元でアコーディオンを弾き続けるよ、しかも下
toi aussi deviens producteur d'un groupe de filles avec un synthé bon tant pis en trois leçons. Et en une heure, tu pourras produire un tube que tout le monde a oublié une semaine après sa sortie.
Japon.
C'était donc... Alors avant...
C'était quoi du coup? Avant d'accueillir notre invité, la référence musicale.
Avant Tokyo Girl Style, avant les SNSD, avant les Super Monkeys, et avant les Morning Musume, bien avant, ça sent bon l'année 91.
Avant Tokyo, les Pink Ladies.
Ah bah non, les 80, les Pink Ladies, elles ont commencé en 74, au milieu des années 70.
Ça me rassure.
Tu sais, t'as acheté un best-of.
T'inquiète, Tokyo, je le ressortirai des cartons.
Les Tokyo Performance Doll, un groupe de 7 minettes, donc c'est pareil, c'était déjà très jeune. C'était vraiment l'amorce des Morning Musume. Hein. Et a priori, ça n'a pas pris, puisque elles ont pas sorti grand-chose. Quand vous écoutez la chanson, vous comprenez un petit peu.
Comment elles s'appellent pour qu'on les rappelle pas?
Tokyo Performance Doll.
Tokyo Performance Doll.
Voilà. Okay. Et la chanson, c'était Weekend Paradise. Yeah!
Ok, t'as entendu ça, Mathieu?
Mais oui, c'est un Weekend Paradise.
C'est un week-end de folie avec Mathieu Pinon.
Mathieu Pinon avec nous, bonjour Mathieu.
Folie chez Moutiki, comment allez-vous bien les gens?
Eh ben écoute, ça va pas mal et toi?
Eh ben ça va forcément bien, j'imagine. Est-ce que tu es en train de sortir un nouveau bouquin? Explique-nous un petit peu ça!
Ah, ben écoute, il sort le 15 avril et je l'ai reçu hier de la...
Allô?
Allô. Alors allons bon, ça commençait bien pourtant. Est-ce que tu nous entends, Mathieu?
Allô. Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil?
Oh merde, alors pour le coup, si ça passe plus, alors que ça avait bien commencé en plus. Bon,
le Mathieu, il est présent, mais on a un petit problème de Skype. Donc, en attendant...
On va quand même réexpliquer ce que c'est que le bouquin, donc l'histoire du manga moderne, avec Mathieu Pinon et Laurent Lefebvre, illustré par Nico Itoride. Nico Itoride, on en a parlé pendant qu'on était au Japon, donc c'était via le Facebook, parce que c'est lui qui a dessiné et animé le clip de Manu, ex-Dolly, si vous vouliez la référence, évidemment. Tenki Ame, c'est le nom de la chanson, et donc c'est Nico Itoride qui en a fait...
Le clip réalisé en flash, ouais.
Le clip réalisé, exactement, en flash. Là, c'était pas en flash, hein, il a fait l'illustration de ce bouquin, Histoire du manga moderne, de 1952 à 2012. Hop là. Et donc,
est-ce qu'on a retrouvé le Mathieu?
Est-ce qu'on a retrouvé le Mathieu pour le coup?
Alors, est-ce qu'on a retrouvé?
Et tiens, il reprend comme si de rien n'était. Oui, donc.
Il a raison.
Mais c'est impeccable.
Allons-y, Mathieu, on t'écoute.
M'entendez-vous cette fois-ci?
Oui, nous t'entendons.
Parfaitement.
Parfaitement.
Eh ben voilà, c'est la fête. Hop, j'ai switché de matériel, mais au moins je sais que cette fois-ci le micro ne me lâchera point.
Super. Alors, histoire du manga moderne 1952-2012, c'est bien ça, hein?
C'est cela, oui. Les plus forts en maths auront constaté que malgré l'apparence, on ne couvre pas 60, mais 61 années en tout sur le bouquin, puisque bah, 152-2012, ça fait 61 années. Et c'est donc 61 double pages. Qui permettent de comprendre comment le manga s'est développé au Japon au fur et à mesure, en parallèle de l'histoire du Japon même. Donc, sur la page de gauche, on résume l'année qui s'est écoulée, par exemple, 93 au Japon, le poste de Premier ministre qui passe de la droite à la gauche, on est en pleine fin de la crise de la bulle, on est dans l'apparition des concours de cuisine à la télévision, et j'en passe. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre en 93?
Concours de cuisine à la télévision, d'accord, ok.
Bah, genre des Master Chef, mais en 93, quoi.
C'est ça.
Voilà, ça s'appelait Iron Chef, très exactement.
On n'a rien inventé, en fait.
Bah, évidemment qu'on n'a rien inventé.
C'est l'année de diffusion de Paprika, enfin l'année de sortie de roman de Paprika, et également année de sortie des Power Rangers aux USA, le clone de tous les Go Rangers et autres Sentai Made in Japan. Et sur la page d'en face, nous avons choisi de parler de Taiyo Matsumoto, puisque c'est l'année où il a sorti Amer Béton.
Donc on a une année explication de l'histoire du Japon, en tout cas remise dans le contexte, et l'autre page portrait d'un mangaka qui a marqué l'année.
Voilà,
donc à la fois un mélange.
En avant, 92 par exemple, c'est Clamp qui est choisi, en 91 Takeuchi. Si je reviens un petit peu plus tôt dans les... j'ai 1972 Ryoko Ikeda avec Lady Oscar, en 71 Gonaga et en 70 Jiro Taniguchi, puisque Jiro Taniguchi a commencé en 70, ça fait plus de 40 ans, bientôt 45, qu'il nous fait rêver avec ses mangas.
Il nous fait rêver, exactement. Et le premier, le tout premier, logiquement, c'est
le grand patron, c'est Osamu Tezuka, qui est d'ailleurs le seul à avoir le droit à trois pages au lieu d'une seule, parce que il a fait sa carrière et sa vie sont tellement riches que
ça
pour lui rendre ne serait-ce qu'un dixième de l'hommage qu'il a mérité.
Donc à la fois un mélange et socioculturel et qui à chaque fois met en avant un mangaka marquant. C'est très malin finalement comme construction, puisque ça permet de couvrir quand même une longue période, 61 ans quand même, et du coup d'aborder beaucoup de... j'insiste là-dessus parce que c'est quand même super intéressant le détail de ce qui un petit peu s'est passé pour toutes ces années que le public français connaît mal, quoi, tu vois, au niveau de la politique ou au niveau socioculturel. Moi je trouve ça très intéressant, quoi.
C'est exactement ça, parce que le principe, essayer de faire tout un bouquin, enfin intégral, oui, basé là-dessus, c'était très compliqué. Là, au moins,
ça aurait fait peut-être un peu lourd entre guillemets, tu vois.
Voilà, donc, c'est exactement ça. Là, c'est tout à fait ça.
Non, mais oui. Mais moi, c'est parfait, parce qu'il y a un côté ludique.
Vous êtes parfaitement d'accord.
Non, mais il y a un côté ludique, historique, qui est hyper important, bien sûr, parce que c'est un bouquin sur le manga. Mais en même temps, voilà, on apprend aussi des choses sur l'histoire du Japon, sur ce qui s'est mis en place dans la pop culture. Le complément parfait, si je puis dire.
Exactement. Ah,
non, mais c'est
et tout ça pour le prix modique de...
Maryse. 30 euros moins un centime.
Ouais, voilà, 30
Maryse,
euros moins
pour
un
la modique somme de 29,99 euros.
29,99 euros. Moi, je préfère dire 30 euros moins un centime, parce que c'est au moins ça annonce bien la couleur. Mais là, par exemple, j'ai un bon exemple sur l'année 1960, par exemple. Pour le français de base, pour le consommateur de manga, tout le monde pense que les Japonais sont un peuple calme, tranquille, très poli. 1960, c'était une année de violence hors du commun, puisqu'il y avait dans la ville de Miike, qui où il y a les mines de charbon, donc c'est un petit peu l'équivalent du nord de la France, mais version au Japon. Il y a eu un énorme conflit syndical qui a duré toute l'année, qui a fallu s'affronter 1,5 million de d'ouvriers qui venaient de tout le pays contre 35 000 policiers, des manifestations partout, et il y a une étudiante japonaise très très douée qui est morte lors d'une manifestation. Et le lendemain, les plus grands quotidiens du Japon ont eu le même éditorial. Ils ont tous sorti le même édito dans lequel ils disaient « Nous n'avons jamais eu autant peur pour l'avenir du Japon. La démocratie périra si la société laisse la violence généraliser. » Voilà. Donc, 1960, quand on a des trucs comme ça et que quelques années plus tard, il y a le Gekiga qui apparaît, faut pas chercher bien loin le rapport de cause à effet.
D'accord. Donc, tu mets tout ça en relation, alors.
Et c'est ça.
Et ah ouais, effectivement, donc ça remet... Non mais c'est un bon bouquin d'histoire du... Enfin, faut le prendre comme un bouquin d'histoire de la pop culture et faut le prendre comme un bouquin d'histoire du Japon tout court.
Voilà, c'est pour ça que sur le titre, nous avons choisi de mettre histoire avec un S entre parenthèses, parce que on ne dresse pas vraiment l'histoire en elle-même du manga moderne. Il y a des livres qui l'ont fait très très bien en s'accent uniquement sur le manga. Nous, en prenant plein de petites histoires qui sont réellement arrivées au Japon, réellement arrivées dans l'industrie manga et réellement arrivées aux dessinateurs, on fait des petites touches sur la toile et quand on prend du recul à la fin, on voit le grand tableau. C'est une espèce de livre impressionniste, si on peut dire ça de manière prétentieuse.
C'est une mosaïque de ces 60 dernières années, quoi, finalement.
Voilà, c'est ça. C'est petit bout par petit bout, et à la fin, on se rend compte de la figure d'ensemble, et on comprend que, eh ben, le manga, ça vient bien de quelque part, et ça vient bien du Japon, et c'est pas pour rien.
Est-ce que vous agrandissez encore plus le tableau en parlant notamment de l'apparition du manga en France et des de la proto-histoire, si j'ose dire, du manga en France?
Alors pour ça, on pensait à le faire, on savait pas vraiment comment l'aborder parce que c'est compliqué. Et c'est également toute une histoire en elle-même. Et finalement, oui, on a trouvé une solution avec une interview croisée de trois éditeurs qui représentent chacun une génération. Donc on a le papy, le fondateur, le grand ancien, Dominique Verret, actuellement chez Akata, mais créateur de Tonkam à l'époque.
Ah bah une légende, hein.
Voilà. Ensuite, pour la deuxième génération, la Grégoire Hélot, qui est responsable éditorial chez Kurokawa depuis une dizaine d'années maintenant.
Silver Mousquetaire, si vous ne l'avez pas connu, hein, je veux dire, voilà.
Exactement.
Ou Gamecult, maintenant, voilà.
Et pour finir, Karim Talbi, qui s'occupe d'Issan Manga depuis un an ou deux, et qui en plus a l'avantage non seulement d'être un éditeur tout récent pour parler du marché tel qu'il est aujourd'hui, mais également le seul éditeur qui fait du vintage. Et comme on parle de vieux mangas dans le bouquin et qu'il n'y a pas de vintage, ou très peu en France, on a pu également parler de ce manque éditorial.
C'est un bouquin, alors je l'ai dit déjà pendant que tu étais en train de rappeler, en fait vous êtes deux à l'écrire, hein, avec Laurent Lefebvre, Nico Itoride également à l'illustration, et c'est un bouquin qui a été donc financé participativement
par My Major Company.
Tout à fait, et c'est marqué d'ailleurs My Major Company sur le bouquin, j'imagine.
Il y a un petit logo quatrième de couverture, ce qui est bien la moindre des choses, puisque sans eux le livre ne serait même pas entre mes mains.
Et du coup vous êtes arrivé à combien de pourcents au final?
Nous avons franchi les 150%.
Ce qui est très bien déjà.
Ce qui est très bien. Donc, du coup, effectivement, il y a deux petits bonus pour qui ont pu apparaître dans le livre. À la base, le livre aurait dû faire environ 150 pages. Hein, 120 pages de. Enfin, 60 pages. 60 années fois 2, ça fait 120 pages. Une petite intro, une petite conclusion, plus l'interview des éditeurs, et on arrive à 150. Grâce à l'argent supplémentaire qu'on a pu obtenir, on a ajouté deux bonus. Alors, il y a tout d'abord une bonne vingtaine de pages thématiques qui nous permettent de montrer l'éventail des genres qu'on peut trouver dans le manga à travers des titres essentiellement sortis en France.
Sorte autant les des genres, en fait.
Voilà. Autant les 60 double pages reviennent vraiment sur le manga au Japon, tant là on a cherché à faire une espèce de petit guide d'achat, puisque
il y a peut-être
des personnes qui, en s'intéressant au livre, se sont dit « Ah bah tiens, du coup, j'ai peut-être commencé à lire quelques mangas ». Donc on parle des mangas qui parlent de mangaka, on parle des mangas qui parlent de cuisine, les mangas sur les otaku, la vie de quartier, le combat, les robots et j'en passe.
Un petit glossaire, ouais.
Et nous avons également une petite galerie avec des artistes français qui ont été biberonnés par les mangas et qui ont décidé de rendre hommage à divers passages clés de l'histoire du manga. Donc ce ne sont pas des fan art dédiés à tel auteur ou tel auteur. Là, on a choisi par exemple la résidence Tokiwaso, donc au tout début du manga. Quand Osamu Tezuka est parti d'Osaka pour monter à Tokyo, il a logé dans une résidence toute miteuse qui s'appelle le Tokiwa. Et les petits jeunes qui sont arrivés derrière ont voulu évidemment aller dans la même résidence, puisque c'était la résidence du maître. Et c'est là qu'on a pu voir grandir Shotaro Ishinomori, Fujiko Fujio qui allait faire Doraemon plus tard, Hideko Mizuno et j'en passe.
C'est l'effet Montmartre mais au Japon quoi.
Exactement. D'autres qui ont fait le groupe de l'an 24, les féministes des années 70, Akira qui conquiert le monde, puisque Akira est le premier vrai manga à s'être exporté et à avoir eu un impact global. Donc nous avons des dessinateurs français qui ont chacun fait une illustration pour rendre hommage à une de ces périodes, ainsi qu'un japonais, un mangaka professionnel qui a trouvé l'idée du bouquin très très sympathique et a décidé de participer également au projet.
D'accord, donc quelque chose d'assez complet, du coup, grâce à cette jauge atteinte. Alors par contre, moi j'aurais une question un petit peu plus pratique pour tous les gens là, du coup, qui vont vouloir se procurer le livre. Donc on a annoncé qu'il sortait le 15 avril. Comment les gens concrètement vont pouvoir le procurer? Est-ce qu'il va être disponible partout? Est-ce que dans un premier temps, c'est seulement ceux qui ont contribué à My Major Company qui vont pouvoir être servis? Et enfin, comment ça va se passer en fait?
Alors le 15 avril, c'est le jour de la mise en rayon en librairie.
D'accord.
Voilà. Okay. Donc à partir du 15 avril, vous allez dans votre librairie, vous demandez Histoire du manga moderne de Mathieu Pinon, Laurent Lefebvre, votre édition Inis. Soit votre libraire l'a, soit il l'a pas et il peut le commander.
Ouais. Vous pouvez même d'ailleurs, dès que l'émission va être en ligne pour ceux qui ne nous écoutent pas actuellement, vous pouvez déjà commencer à le demander à votre libraire, puisqu'après tous les libraires ont accès à une base de données qui s'y sont passés à côté, puisque c'est chez un tout petit éditeur, hein, si j'ai bien compris, t'es redistribué.
Pour l'instant, il n'y a que 1000 exemplaires qui sont mis en distribution, ouais, donc okay. Toutes les librairies ne sont certainement pas arrosées.
D'accord.
Moi je tiens... Chacun fait ce qu'il veut, j'ai rien à dire à personne sur la manière de vivre et d'acheter. J'espère sincèrement que les gens iront l'acheter dans leur boutique spécialisée. Mais pour ceux qui préfèrent les géants du net et grappiller 30 centimes ou 40 sur des frais ici ou là,
il est déjà 30 euros moins ça fait 30 euros moins 31 centimes du coup.
Moins 5% quoi.
Voilà.
Donc vous pouvez le trouver donc sur les plateformes alors.
Voilà, sur des plateformes
oui, parce qu'effectivement...
genre Forêt d'Amérique du Sud ou boutique carré orange avec 4 lettres.
C'est bien Forêt d'Amérique du Sud aussi des fois. Maintenant, c'est japonais maintenant, c'est une Forêt d'Amérique du Sud japonaise. Imagine le truc.
Voilà, donc il y a la Forêt d'Amérique du Sud, puis sinon il y a la fac sans N.
Voilà. ForêtDamériqueDuSud.com. Allez-y, vous allez trouver.
Et si ça se trouve, ils ont
des choses sympas.
Ils y ont pensé.
C'est pas mal ça.
Enfin bref, ok, très bien. Histoire du manga moderne. On le rappelle, Mathieu Pinon, Laurent Lefebvre, illustration de Nico Itoride. C'est aux éditions Inis, c'est ça hein?
Exactement, tout à fait.
Ça s'écrit comment? Y-N-Y-2-N-I-S. Y-2-N-I-S, voilà pour la présentation.
Un bouquin qu'on vous encourage évidemment.
Alors moi j'ai une petite question subsidiaire juste avant
à vous
qu'on...
procurer.
Ouais, on va peut-être enchaîner sur un truc où
on va peut-être pas tarder
on a presque plus le temps en fait, le temps de poser une question et d'enchaîner
vas-y.
Sur une chanson.
Vas-y, ouais, on a le temps là.
Du coup, moi j'ai une petite question subsidiaire parce que nous on est allé au Japon début mars et toi tu nous as relayé.
Et oui, on s'est
pour les besoins.
De quelques heures.
Et en plus, on s'est loupé de quelques heures. On est reparti le 17 et toi, tu es arrivé le 18. Et c'était pour les besoins. Et donc, on va faire de la pub pour des confrères. Du coup, c'était pour les besoins de Coyote. C'était bien ça.
Exactement.
Alors. Donc, retrouvez.
Oui.
Si vous ne le saviez pas encore, retrouvez Mathieu Pinon régulièrement sur Coyote. Et justement, fais-nous un petit teaser. Qu'est-ce qu'on va y retrouver dans les prochains numéros de Coyote alors?
Une exclusive, mais j'ai déjà fait le teaser ne serait-ce que du 54, puisque c'est le prochain là, qui sort à la fin du mois. Appel rentrée du Japon, nous sommes également rentrés en plein bouclage. C'était pas drôle sinon.
Oui, bah, ça, c'est logique.
Et donc,
tu t'es amusé prochain... Bon, bah maintenant, boss. Allez.
Dans le prochain numéro, alors, nous avons un report exclusif du parc universel d'Osaka.
Avec Harry Potter.
Où se trouvera toujours l'attraction Harry Potter et où se trouvaient les attractions Attaque des Titans, Evangelion, Monster Hunter et Resident Evil qui prendront fin au début du mois de mai. Donc on y allait pile à temps pour pouvoir les couvrir. Et une interview du Studio 8 avec le scénariste de Rolling Girls qui nous dit tout sur la série et George Wada, le patron du Studio 8, donc qui a fait l'adaptation animée de l'Attaque des Titans. Et personne ne les avait eus encore, donc on est les premiers.
Pas mal, okay, effectivement.
Donc, Coyote, une des références vraiment au niveau de l'animation en kiosque.
Et alors nous, on est allé en bas de la Tokyo Skytree. Toi, tu es allé dans la Tokyo Tower, l'ancienne...
L'autre tour de Tokyo qui justement souffre de la Tokyo Skytree qui attire tous les touristes désormais. Et donc la Tokyo Tower a ouvert au sein même du monument un parc d'attractions dédié à One Piece.
Donc une sorte de méga, parce que j'arrive pas à me figurer exactement la grosseur de la tour, mais c'est une sorte de méga boutique One Piece, de méga musée One Piece. Quoi.
Ah, c'est un parc d'attractions littéralement.
Ah mais carrément.
Bien sûr, avec il y a une espèce d'attraction où tu shootes avec la fronde de Pipo, de Usopp. Il y a un autre moment où tu dois faire suivre les mouvements de Zoro pour trancher les boulets de canon qui t'arrivent en face de toi sur un écran géant avec synchronisation. Il y a une petite comédie musicale qui est exceptionnelle. Il y a un jeu de loterie présenté par une amie en 3D. Mais tu te demandes comment elle fait pour tenir debout avec des nichons pareils, puisque qu'une amie fait du 120G.
J'ai envie de te donner une réponse tout à fait rationnelle en termes japonais. Je te répondrai juste Japon. Voilà.
Voilà, exactement. Mais alors de mon côté, j'ai également une question pour vous, puisque Muteki, quand même, la musique, oui, la musique qui sera la clé de la joie de l'amitié.
Certes, oui.
Avez-vous remarqué quelle était la chanson qui était deux fois au top 10 de l'Oricon pendant notre séjour, grosso modo?
Alors nous, on a vu Kumamushi qui nous a complètement traumatisé l'esprit dans les Matsuya, mais je ne vois pas, effectivement.
Et moi, ça a été Ai Uta qui m'a traumatisé.
Ah!
Il y a un film qui est sorti qui reprend la chanson Ai Uta de Glin et ils l'ont fait rechanter par un groupe de quatre adolescentes qui s'appelle donc les Whitey In. comme White, Justine, mais avec 4 E comme
Green. White Teen, ouais, exactement.
D'accord.
Qui ont été sélectionnés par Green sur Testing par Line. Et du coup, comme la chanson, les Japonais en sont toujours aussi fous, il y a à la fois la version 2.0 chantée par les filles et la version d'origine par Green qu'on retrouvait dans les 10 premiers de l'Oricon et de Countdown TV. Ah, ce qui fait qu'en 2015, la chanson de l'année, c'était encore du Green avec Ayuta.
Comment faire deux fois plus de profit.
Effectivement.
Avec la même chanson.
Et voilà. Je pense qu'on va, on va pouvoir en terminer avant justement de passer au remerciement. Green, on n'est pas à son coup d'essai puisque leur méga tube Qui c'est qui a été repris, non pas par des petits jeunes ce coup-ci, mais par Shigeru Matsuzaki, donc qu'on connaît nous, enfin via No Life par Shigeru Brown, parce que c'est un chanteur à l'ancienne de générique, mais donc des années 70-80, et notamment Cobra. Et en fait, c'est un vieux qui reprenait un jeune. C'est à ça qui était assez
comme
amusant.
Quoi, comme quoi, tout arrive.
Tout arrive. Japon, après
Japon,
tout, voilà.
Le Japon.
Merci beaucoup, Mathieu.
Merci, Pinon. Mathieu.
Histoire du manga moderne, on le rappelle.
Merci à vous. Lisez bien mon livre. Notre livre avec Laurent, il est formidable. Ne vous gavez pas trop de chocolat et continuez d'écouter de la bonne musique.
T'inquiète qu'on va te faire une promo d'enfer, mon gars. T'inquiète.
Et on va
en parler du livre.
Et on termine avec quoi, du coup, alors, pour se dire au revoir?
Alors, on termine avec un générique de fin de Sailor Moon Super S / Koiki Machio. Mathieu, merci. À bientôt.
Merci à vous, messieurs. Et très bon générique.
Et vive Coyote.
Allez, portez. Portez-vous bien, vieux leçon japonais.
Jamata.
Oh,